puisque la session d'avant a été légèrement écourtée et que Patrick Lehung doit nous quitter impérativement à 18h30. On avait de toute façon conçu cette dernière session comme une session un peu différente des autres, comme la question politique elle-même, la prégnance dans le champ politico-médiatique du vote à la droite de la droite, on va dire. J'essaie d'être prudent dans mes formulations pour ne pas me faire reprendre. Est quand même une question importante sur laquelle, justement, il faut avoir les idées claires. Et c'est rarement le cas si on écoute les protagonistes des émissions des grandes chaînes privées ou publiques. De laisser du temps à la présentation de ces éléments de réflexion et ensuite d'engager un débat plus général sur cette question proprement politique, sur ce qu'on peut en faire dans l'action citoyenne, peut-être y compris en reprenant les éléments qui ont été discutés ces trois jours, mais aussi, bien sûr, en réinvestissant dans la discussion les éléments que Patrick Lehung aura mis dans la discussion. Donc, en fait, on va le laisser présenter un certain nombre d'éléments pendant une quarantaine de minutes, on va dire. Et ensuite, il y aura un temps plus de questions, réponses, discussions autour de son intervention. Et puis, à 18h30, je reprendrai le fil et on relancera le débat pour un débat plus général sur l'action par rapport à la montée des idées réactionnaires et la manière dont on peut se positionner par rapport à l'évolution du débat public. Voilà, donc Patrick Lehung est professeur de sciences politiques à l'Université de Picardie. C'est à la fois une personne importante pour le CURAP, qui est aussi mon laboratoire. Les travaux de sciences politiques amiénoises et notamment les travaux de sociologie politique et électorale sont des travaux qui font référence dans le champ de la science politique française, justement parce qu'ils articulent des éléments, des niveaux d'analyse qui ne sont pas toujours articulés de cette façon-là, en tout cas mobiliser des éléments quantitatifs, et avec des techniques quantitatives, statistiques tout à fait élaborées, mais aussi des enquêtes qui permettent de situer précisément le contexte dans lequel les gens développent un certain nombre de points de vue, de prises de position, dans lesquels l'électeur perçoit le jeu politique, donc relevant davantage de l'enquête qualitative, de l'enquête ethnographique, de l'enquête par entretien. Interrogeant des axes particuliers, des populations particulières. Vous savez que la Picardie est concernée par ces évolutions dont on parle là dans ce festival, sur la montée, en tout cas la présence plus importante dans le jeu politique d'un certain nombre de votes à la droite de la droite. Et en même temps ne pas découper, dissocier cette analyse-là d'une analyse plus générale du fonctionnement du champ politique. Et comme par ailleurs au CURAP, il y a un certain nombre de travaux qui portent davantage sur les formes de politisation, sur l'action militante, etc. Bon, cette analyse électorale, en quelque sorte, s'insère tout naturellement dans un champ de préoccupation plus large, et ce qui fait cette couleur particulière que je défends fièrement ce soir. Donc, Patrick, tu as la parole.
Merci.
Et je vais essayer de contrôler le temps.
Oui. Alors, je suis confus de tant d'éloges, d'autant plus que j'ai à vous adresser en guise de préambule toute une série d'excuses en rafale. Alors, quatre essentiellement. Bon, la première, mais Bertrand l'a rappelé, j'ai malheureusement des impératifs pour rejoindre ma haute Picardie résidentielle, qui est une terre d'élection du Front National, tu l'as rappelé. Et donc, je vais devoir partir au moment même où le débat va s'engager, ce dont je suis. Évidemment un peu honteux. Deuxième excuse, peut-être encore plus sérieuse. Bon, le Front National, vous le savez, surgit presque ex nihilo à partir de 1984, des européennes de 84. Donc ça fait quand même déjà 30 ans. Tellement d'encre ont coulé autour de cette formation, de son leader et de ses électeurs, que je suis à peu près persuadé de ne rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà cet après-midi. Donc ce que je voudrais simplement aujourd'hui essayer de faire, c'est vous faire partager les raisons pour lesquelles, en sciences sociales, si on veut traiter un peu sérieusement le problème, on éprouve beaucoup de difficultés à appréhender les votes frontistes. Alors appréhender dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avoir prise rationnellement sur des votes vis-à-vis desquels on nourrit d'assez légitimes appréhensions. Troisième excuse, j'ai bien conscience d'être un peu latéral, donc un peu désordonné par rapport au thème général du festival, c'est-à-dire l'amour de l'ordre. Alors, je l'ai tordu de la façon suivante, je me suis retourné cette injonction, et l'idée, en fait, ce serait de mettre un petit peu d'ordre, un petit peu de régularité sociale et sociologique dans les raisons et les structures de ce conglomérat électoral qu'est le vote frontiste. Et puis, quatrième série d'excuses, et j'arrêterai là mon autocritique à la chinoise, je vais malheureusement, probablement, vous noyer sous un déluge de chiffres. Alors, c'est à la fois dû à ma formation disciplinaire, on a beaucoup de chiffres en sociologie électorale, c'est peut-être dû à des penchants quantophréniques dont je ne suis pas particulièrement fier, et puis c'est également peut-être, utiliser beaucoup de chiffres, une manière un peu lâche de refroidir un objet dont on sait qu'il est assez chaud, voire même très brûlant. Alors, peut-être pour commencer, deux toutes petites précisions. Le Front National donc surgit électoralement en 1984. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur les raisons de cette apparition brutale. C'est un an après ce qu'il est convenu d'appeler le tournant de la rigueur. C'est au moment du lancement des très grands plans de licenciement dans la sidérurgie lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça correspond également, ces européennes de 1984, au moment où les taux d'abstention vont commencer à croître, quel que soit le type d'élection que l'on peut observer. La date tournante, c'est véritablement 84. Donc il y a une sorte de coïncidence qu'on continue à vivre aujourd'hui, de concordance, entre la montée de ce vote, mais également la montée de l'abstention. Et petite singularité dont nous n'avons pas nécessairement à être très fiers, mais il y a une véritable exception française dont il faut quand même avoir bien conscience. Nous sommes, dans les démocraties occidentales représentatives comparables, le seul pays où une formation qu'on peut nommer, même en risquant un procès, d'extrême droite, obtient 10% et quelquefois plus des suffrages exprimés depuis 30 ans, et ce, sans quasiment aucune interruption. Alors, je sais bien qu'actuellement, il y a des formations d'extrême droite dans un certain nombre d'autres pays, la Norvège ou la Suisse, qui obtiennent des scores encore plus importants que le Front National français, mais elles ont une moindre longévité électorale. Donc là, on a une sorte de record dans la permanence de ce vote, qu'il faudrait également peut-être un peu interroger. Deuxième petite précision, on a, si on fait une petite historique depuis 1984, on a le sentiment un peu fallacieux d'une irrésistible montée par palier. Donc dans la seconde moitié des années 80, le FN, quel que soit le type d'élection, et Dieu sait si elles sont nombreuses en France, il y a à peu près une élection tous les 9 mois, le Front National donc est aux alentours de 10% dans la deuxième moitié des années 80. Il est dans les années 90 autour de 15%, et il est dans les années 2000 et 2010 désormais entre 15 et 20, et plus près de 20 que de 15. Donc on a ce sentiment d'un ancrage et en même temps d'une montée par palier, qui est un sentiment, c'est le premier point que je voudrais vraiment développer, très trompeur. D'abord, ne l'oublions jamais, le Front National a connu deux gros trous d'air, si je puis m'exprimer ainsi. Le premier, vous le connaissez tous, en 1999, après la scission des maigrettistes et l'apparition du MNR, qui relègue le Front National aux européennes de 99 à 5% des suffrages exprimés et qui surtout va lui coûter à peu près 60% de ses cadres. Et c'est une hémorragie dont il a eu beaucoup de mal à se remettre et dont il souffre, hein, dont il continue à pâtir d'ailleurs actuellement. On l'a vu dans la laborieuse constitution des listes lors des élections municipales qui viennent de se dérouler. Et le second trou d'air, bon, vous le connaissez encore mieux, c'est évidemment l'épisode 2007, hein, le fameux siphonnage par Nicolas Sarkozy d'un bon tiers des électeurs de Jean-Marie Le Pen, et surtout, on ne l'a peut-être pas assez noté, le fait qu'aux élections législatives qui suivent, hein, au mois de juin, les candidats du Front National obtiennent 4,3% des voix, ce qui va entraîner d'énormes difficultés financières du fait de la perte du financement public pour ce parti. Donc ça permet déjà de nuancer l'idée de permanence, d'ancrage et d'une montée par palier. Il arrive, et ce n'est pas complètement toujours accidentel, que ce Front National, en termes d'influence électorale, recule. Alors, rappelant tout cela, je pointe un problème sur lequel je vais essayer de m'apesantir, c'est celui de l'inconstance de ce vote. Alors, l'inconstance, je ne l'utilisais évidemment pas en termes moral, mais inconstance au sens simplement arithmétique du terme. Il y a une très grande variabilité des votes FN, il y a ce qu'on appelle une forte volatilité de ces votes, et c'est probablement l'une des dimensions les plus importantes de ce vote et, d'un certain point de vue, l'une des plus énigmatiques. Alors, je vais commencer à vous saouler par un certain nombre de chiffres. Si je prends la période la plus récente, pour ne pas remonter trop loin, Jean-Marie Le Pen, par exemple, obtient un peu moins de 4 millions d'électeurs en 2007. Je crois que de temps en temps, il est utile de ne pas simplement travailler en pourcentage, mais en électeurs. Et sa fille, 5 ans plus tard, on obtient presque 6,5 millions. Donc vous avez déjà une variation de près de 50%. Mais là, je parle d'un scrutin qui est le plus nationalisé qui soit et qui est le scrutin où les variations du vote FN sont peut-être les moins fortes et les moins erratiques. Si je passe à un autre scrutin, comme par exemple les législatives, en 2007, les candidats du Front National, qui sont présents partout, sauf dans les dom-toms, réunissent à peine 1 million de voix. 5 ans plus tard, ils en obtiennent 3,5 millions. Alors, ça pose déjà un petit problème. L'influence électorale du Front National, c'est quoi? C'est 1 million, c'est 3 millions, c'est 5 millions, c'est 6 millions. Donc on voit déjà qu'on a une fourchette qui est assez large. Mais, me semble-t-il, il y a derrière tout ça une petite illusion d'optique, c'est-à-dire l'idée que les chiffres les plus bas que je vous ai donnés constitueraient une sorte de plancher historique et les chiffres les plus hauts, une sorte de plafond. Donc l'illusion vient du fait qu'on fait comme si les petits chiffres étaient nécessairement inclus dans les grands. Je m'explique. On fait comme si les 1 100 000 électeurs qui ont voté FN aux législatives de 1997 avaient tous reproduit ce vote en 2012, 5 ans plus tard. Or, on a quelques indications assez sérieuses quand même qui nous permettent de dire que ça n'est pas du tout le cas. Donc la volatilité est infiniment plus grande encore que ces quelques chiffres agrégés ne le suggèrent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais j'ai un exemple, malheureusement un peu lointain, il date d'une quinzaine d'années, d'études qui combinent, alors je répète, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais enfin je considère qu'elle est relativement sérieuse. C'est une étude qui combine à la fois des intentions de vote et une méthode mathématique, bon, c'est une sorte de matrice de mobilité électorale qui ressemble un peu aux matrices de mobilité sociale, où de manière incrémentaliste, on essaye de caler les résultats réels avec ce que nous disent les matrices sondagières de transfert de voix. Bon, alors je ne rentre pas dans le détail, j'en arrive tout de suite aux résultats. Alors ça concerne la période 95-97. Au présidentiel de 95, Le Pen obtient 15,3% des exprimés. 2 ans plus tard, les candidats du FN aux législatives obtiennent strictement la même performance, 15,3% des exprimés. Donc illusion d'optique, parfaite constance, parfaite permanence de ce vote. Si on passe au nombre d'électeurs, bon déjà ça change un peu, Le Pen avait obtenu 4 500 000 voix et les candidats du Front National 3 800 000 seulement. Donc ça fait déjà une sorte de déchet de 700 000 voix, qui est tout à fait logique, hein, et qui est dû simplement à la poussée de l'abstention, hein, des présidentielles aux législatives. Mais ce que cette matrice nous apprend, c'est qu'en fait, le FN perd beaucoup plus que 700 000 voix en deux ans. Il en perd. Alors la matrice nous donne des résultats à l'électeur près. Enfin, je ne pousserai pas le ridicule jusqu'à vous donner des chiffres quasiment après la virgule, donc je vais arrondir tout ça. La matrice nous donne des flux de sortie d'à peu près 2 millions d'électeurs. C'est-à-dire, il y a 2 millions d'électeurs qui avaient voté Le Pen en 1995 et qui ne reproduisent pas ce vote lors des élections législatives. Et bon, on peut même décomposer assez finement, hein, ces 2 millions d'électeurs fuyants, si j'ose dire. 500 000 ont voté à gauche en 97, 500 000 à droite, et 1 million se sont abstenus. Alors j'avais écrit aux auteurs, hein, de façon un peu malicieuse, en leur signalant qu'ils avaient oublié qu'entre-temps, il y avait peut-être un certain nombre d'électeurs qui également étaient décédés. Donc il faudrait également introduire la démographie du corps électoral. Il arrive que des électeurs du FN décèdent, et d'un certain point de vue, c'est peut-être heureux. Donc vous avez 2 millions d'électeurs qui ont quitté Le Pen pour d'autres formations ou pour l'exit électoral, mais je rappelle le chiffre, hein, il avait perdu 700 000 voix. Bon, ça veut dire qu'il y a 1 300 000 électeurs qui n'avaient pas voté Le Pen en 1995 et qui ont voté pour des électeurs du Front National en 1997. Alors je peux là encore vous donner la décomposition, hein, 400 000 venaient de candidats de gauche en 1995, 700 000 de candidats de droite et 300 000 soit des abstentionnistes, soit surtout des nouveaux inscrits. Vous faites le bilan, hein, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Vous n'avez en deux ans, si j'ose dire, que 2 500 000 électeurs permanents et presque 3 300 000 électeurs mobiles. Autrement dit, le plancher est beaucoup plus bas qu'on ne pourrait le penser. Alors ça, c'est la version rose. Mais la version grise ou brune, comme vous le voulez, c'est que le plafond est également beaucoup plus haut que tous les chiffres agrégés, hein, ne permettraient de le dire. Alors c'est encore plus spectaculaire, parce que là j'ai pris un intervalle de deux ans, c'est encore plus spectaculaire sur 2002, parce que je vous rappelle qu'en 2002, Le Pen est qualifié au deuxième tour, le deuxième tour survient 15 jours après le premier, et entre les deux tours, Le Pen gagne 700 000 voix. Bon, à l'époque, ça n'émeut personne, puisque Maigret avait obtenu au premier tour 700 000 voix, donc on se dit, bah, c'est un transfert, hein, de voix d'extrême droite vers un candidat d'extrême droite. En fait, la répétition de ce type d'analyse, hein, nous montre qu'en 15 jours, Le Pen a perdu 800 000 électeurs, mais en a regagné 1 500 000 en 15 jours de temps. Bon, ça vous donne une petite idée, hein, de l'ampleur, et ça vous permet de comprendre pourquoi j'utilise ce terme que j'emprunte à Daniel Gaxi, qui a l'air un peu pédant, hein, de conglomérat électoral. Parler de conglomérat électoral, hein, ce n'est pas une sorte de coquetterie, hein, d'auteur, c'est simplement essayer de répudier la notion d'électorat au singulier, qui connote toujours, hein, charrie toujours l'idée d'une homogénéité, d'une permanence, d'une constance, d'une sorte d'armée très disciplinée, qui serait mue par les mêmes motivations, les mêmes dispositions, et dont les membres, hein, occuperaient des positions très très proches dans l'espace social. Il me semble que ce n'est pas du tout ça, hein, l'électorat, avec beaucoup de guillemets, du Front National. Ça n'est ça d'ailleurs pour aucun électorat, mais particulièrement pour l'électorat frontiste. C'est un conglomérat, un agrégat qui parvient, et ce n'est pas une mince prouesse, à agréger, à opérer la conjonction toujours assez aléatoire, hein, de segments sociaux très divers, voire même souvent contradictoires. Bon, je vous rappelle, mais vous le savez tous, que ce qui caractérise par exemple ce conglomérat électoral du FN, c'est une surreprésentation à la fois chez les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, et dans les mondes ouvriers. Et que quand on reprend l'histoire politique de la France depuis un siècle, aucune formation politique n'a réussi en un siècle à opérer cette conjonction, hein, de segments sociaux aussi polaires, hein, ayant des intérêts, des dispositions, hein, des modes de vie aussi différents. Alors, j'ai bien conscience que disant tout cela, c'est-à-dire insistant sur la très forte volatilité des votes frontistes, sur leur faible constance et consistance temporelle, donc en gros, il est aujourd'hui très haut, mais rassurez-vous, il ne cesse de monter et de descendre. Donc j'ai bien conscience, hein, en vous disant tout cela, de m'exposer à être accusé de tenir un discours un peu lénifiant, hein, un peu optimiste. D'où immédiatement deux bémols et deux précisions pour désenchanter un peu tout cela. La première, si je m'appuie à la fois sur les résultats électoraux du FN depuis 1984 et sur certaines enquêtes d'opinion, alors pas sur toutes, notamment pas sur les enquêtes d'opinion électorales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Enfin, disons qu'il y a un certain nombre d'enquêtes, généralement non électorales, qui sont moins biaisées, moins artefactuelles que d'autres, moins pires que d'autres. Alors, je n'ai pas le temps de développer les raisons pour lesquelles elles sont moins pires, avec beaucoup de guillemets. Alors, j'en prends une qui est relativement rare, donc relativement chère. C'est une enquête qui, d'ailleurs, n'a pas suscité l'attention des médias. C'est bizarre, les rares enquêtes de qualité, les rares sondages d'opinion ne font jamais la une des médias. C'est une enquête commanditée par les locales de France Bleu, réalisée par Ipsos au mois de novembre dernier. Qu'est-ce que nous dit cette enquête qui, je le répète, n'est pas explicitement pré-électorale. On ne demande pas aux gens pour qu'ils allaient voter lors des élections municipales. Ça nous dit à peu près ceci. Alors, je ne garantis évidemment pas la précision, la virgule près des chiffres que je vous donne. Mais ça nous donne des ordres de grandeur qui sont quand même intéressants. Cette enquête nous dit que 22% des sondés concèdent, déclarent ou avouent, hein, vous prenez le verbe qui vous intéresse, avoir déjà voté pour le Front National. Donc on aurait actuellement, dans le corps électoral français, à peu près 22% des électeurs qui disent en tout cas avoir déjà au moins une fois voté pour le FN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décomposition. 4% régulièrement, 8% plusieurs fois, 10% une seule fois. À cela s'ajoute 13% de sondés qui disent n'avoir jamais voté pour le Front National, mais sont aujourd'hui tentés de le faire ou ne l'excluent pas. Alors, il ne faut pas être évidemment naïf. Hein, parmi ces 13%, il y a des électeurs qui ont déjà voté pour le Front National, qui n'osent pas le dire, et donc qui se réfugient dans cette catégorie un petit peu intermédiaire. Mais si vous jouez sur ces chiffres indicatifs, qui ne sont pas très éloignés de ce que l'histoire électorale du FN nous enseigne, ça nous donne les enseignements suivants. Alors là encore, deux scénarios. Scénario rose, si j'ose dire. Vous avez un noyau dur d'électeurs réguliers du Front National qui n'excède pas 4% de l'électorat, ce qui serait plutôt réconfortant. Alors, scénario brun, il y a un potentiel total de 22 plus 13, de 35% des électeurs qui soit ont déjà voté, en le disant, soit ont déjà voté en ne le disant pas, soit sont tentés de le faire. Alors, voilà, le potentiel électoral du Front National actuellement, c'est 35%. Et donc, vous voyez que le plafond est encore plus bas qu'on ne le pensait, il n'est qu'à 4. Le plancher est encore plus bas qu'on ne le pensait, il est à 4. Mais le plafond, beaucoup plus élevé, il est à 35. Et qu'au total, la fourchette est extraordinairement large. Je signale qu'une même enquête, enfin une enquête voisine, en 2012, nous donnait un potentiel électoral total de 25%. Donc on est, voilà, un chiffre assez clair. On est passé d'un potentiel électoral d'un quart à un potentiel électoral d'un tiers des électeurs. C'est la situation qui prévaut actuellement. Alors ça pose, j'en ai bien conscience, un problème politique, voire civique ou moral. Ça pose également, mais vous me direz c'est un moindre mal, un problème sociologique. C'est-à-dire quand on entreprend d'analyser les votes frontistes, de quel vote parle-t-on ? Est-ce qu'on vise par là les 4% d'électeurs permanents, les 8% d'électeurs réguliers mais pas permanents, ou les 23% d'électeurs ponctuels ou virtuels ? Alors, ce n'est pas un mince enjeu, parce qu'on réalise assez vite, dès qu'on procède à l'étrier croisé, que le degré d'adhésion aux thématiques les plus dures du Front National ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on travaille sur tel ou tel cercle, et aussi que la structure sociale de ces différentes composantes du vote FN sont quand même assez différentes. Notamment, le noyau dur est essentiellement composé d'électeurs qui sont plutôt diplômés, plutôt âgés, ce qui n'est pas du tout le cas de la moyenne des électeurs frontistes. Alors, vous l'aurez compris, il est très inconfortable et probablement très illusoire, probablement même inutile, de prétendre faire ce que tous mes collègues politologues essayent de faire depuis maintenant 30 ans, le portrait robot de l'électeur frontiste typique moyen. Alors, deuxième bémol que je voudrais introduire pour là encore essayer de désenchanter un peu les choses, je vous ai suggéré le faible degré de fidélisation des votes frontistes. La séquence électorale qui vient de se clôturer, alors, les municipales de 2007, au moins dans les villes où le Front National est parvenu à présenter des listes. Donc ça nous fait 414 communes pour les villes de plus de 10 000 habitants. Cette séquence électorale tend quand même à sérieusement nuancer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tout atteste qu'il y a une plus grande fidélisation du vote Front National dans la période récente. C'est-à-dire que les flux de sortie sont moindres. Ou pour utiliser une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, on passe d'un état gazeux à un état beaucoup plus solide, hein, ce qui est l'inverse même de la définition en physique de ce qu'on appelle la volatilité. Alors deux illustrations. Si on prend le seul point de comparaison qui est actuellement réalisable, c'est-à-dire les municipales de 95, c'est-à-dire ce sont des municipales hein, où le Front National avait réussi à présenter 400 listes, c'était donc avant la scission maigrettiste. On avait eu, la séquence était la suivante, on a vu des présidentielles au mois d'avril et des municipales au mois de juin. Entre ces présidentielles et ces municipales, dans les villes où le FN avait été parvenu à bâtir des listes, les listes municipales avaient perdu près de 4 points par rapport au score de Le Pen au présidentiel. Si on prend ce qui s'est passé il y a à peine 15 jours, au municipal de 2014, donc, les listes Front National n'ont perdu que 2 points par rapport au score de Marine Le Pen il y a 2 ans. Donc vous voyez bien que la volatilité ou le déchet hein, est moindre, ce qui tend à attester hein, une plus grande fidélisation, une plus grande constance relative en tout cas de ce vote. Et deuxième indication qui tendrait à nous montrer que ça se solidifie quand même un peu, ce qui n'est évidemment pas pour nous rassurer, ce qui se passe en cas de deuxième tour. C'est-à-dire quand les listes Front National parviennent à passer la barre du premier tour, donc la barre des 10%. En 1995, c'était le cas dans 213 villes. Et d'un tour à l'autre, généralement en situation triangulaire, les listes Front National perdaient en moyenne 2 points. Cette fois-ci, hein, et ça concernait 244 villes, les listes Front National ne perdent plus qu'un point. Donc là encore, vous voyez qu'on maintient davantage hein, l'électorat. Et encore, ce un point est-il une moyenne hein, qui est la moyenne de situations très dispersées. Il y a des tas de villes où les listes Front National se sont effondrées, notamment quand on avait un duel gauche-droite assez serré. Vous avez par contre hein, un bon quart des villes où le Front National a progressé, et quelquefois très sérieusement progressé, d'un tour à l'autre. Alors j'en viens à la seconde partie de mon exposé, ça va ? C'est-à-dire la question qui me surlupinait un peu au départ, pourquoi est-il si difficile hein, d'appréhender, en tout cas rationnellement, ce vote ? Alors question qu'on peut retourner de façon un peu plus positive, hein, de quels instruments dispose-t-on en sciences sociales pour essayer de comprendre hein, les votes frontistes. Vous voyez, je cède à la doxa en disant le vote Front National ou l'électorat. Bon, ça, c'est des facilités de langage et il faut toujours essayer de s'en défier. Bon, finalement, il n'y a rien d'original. Hein. La sociologie électorale, si elle veut être une sociologie comme les autres, dispose à peu près des mêmes outils, c'est-à-dire, à tout seigneur, tout honneur en sociologie électorale, des sondages d'opinion, mais également des analyses écologiques, hein, c'est-à-dire la comparaison de la distribution spatiale des votes FN qu'on pourra comparer à la distribution sociale des unités sur lesquelles on travaille, des départements, des villes ou des cantons. En troisième lieu, des entretiens approfondis plus ou moins semi-directifs. Et en quatrième lieu, et c'est beaucoup plus rare, des observations ethnographiques. Alors je voudrais, de façon plus ou moins longue, balayer ces quatre techniques et montrer qu'à chaque fois, chaque technique hein, engendre un certain nombre de coûts mais permet également de faire voir des choses que d'autres techniques ne permettent pas. Donc l'idée, ce serait évidemment, hein, c'est très banal ce que je dis, de pouvoir cumuler ces techniques, de pouvoir les croiser, mais il s'avère que ce n'est pas toujours très facile. Alors, technique royale, hein, utilisée de façon quasiment monopolistique par un grand nombre de mes collègues politologues, le sondage d'opinion. Donc ça, c'est la première technique. Qu'est-ce que ça nous enseigne et qu'est-ce que ça nous empêche de voir ? Alors je voudrais peut-être commencer par une première distinction hein, que j'ai déjà esquissée. Je crois qu'il y a deux types d'enquêtes qu'il faudrait bien différencier. Les enquêtes électorales, hein, d'intention de vote, pré- ou post-électorales, qui posent de très très sérieux problèmes, et d'autres enquêtes réalisées par des organismes un peu plus sérieux, avec un contrôle à minima d'un certain nombre de sociologues, Bon, je pense par exemple à des enquêtes réalisées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par, Julien en parlait tout à l'heure, le Haut Conseil à l'intégration. Et vous avez comme ça toute une série d'enquêtes qui ne portent pas frontalement sur la question des votes, qui portent plutôt sur des questions de valeurs, mais qui nous renseigne latéralement, peut-être plus encore que les sondages d'opinion préélectoraux, sur cette question des votes FN et de leur structuration. Alors, sur les enquêtes préélectorales, bon, le gros problème, vous connaissez tous, hein, c'est la possibilité, bon, qui m'apparaît comme étant quand même assez faible, de pouvoir comparer ces enquêtes sur 30 années, puisque ce phénomène a 30 années maintenant d'existence. Alors pourquoi ? Parce que vous le savez tous, toutes les enquêtes préélectorales, en tout cas, les post-électorales, on est également obligé de le faire, sont des enquêtes redressées. En fait, hein, les chiffres qui vous sont donnés ne sont jamais ce qu'on pourrait appeler les chiffres bruts sortis machine. Pourquoi ? Bah, pour une raison très simple, c'est que la dissibilité du vote FN est faible. Hein, donc un grand nombre d'électeurs FN répugnent à avouer, à concéder ou à brandir leur vote. Ce qui veut dire qu'au très longtemps, il a fallu redresser ces votes sans que les instituts nous donnent leur technique de redressement, voire même la valeur de leur coefficient de redressement. Bon, à la louche, généralement multiplié par deux, les votes, les intentions de vote recueillies pour arriver hein, globalement à une estimation pas toujours très précise de ce vote. Alors, ça pose un problème, parce que non seulement la dissibilité du vote FN est faible, mais, et c'est ça qui est préoccupant, elle est inégalement faible. Et c'est bien ce qui biaise toutes les analyses. Elle est inégalement faible, elle est inégalement faible dans l'espace hein, et dans le temps. Dans l'espace, alors je vais prendre un exemple sur l'espace social, par exemple, le vote des femmes, le vote des électrices Front National. On sait maintenant que la dissibilité du vote FN est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Autrement dit, que les électrices du Front National répugne davantage que les électeurs du Front National à concéder ou à avouer plus ou moins publiquement leur vote. Ce qui, en analyse électorale, nous donne ce qu'on appelle un gender gap, un écart de genre tout à fait fabuleux hein, s'agissant du vote FN. Donc on a 8-10 points d'écart hein, dans pratiquement toutes les études jusqu'à très très récemment entre le vote FN ou la propension à voter FN des hommes et la propension à voter FN des femmes. Le problème, c'est que cette dissibilité du vote FN, elle varie également dans le temps, et pas seulement dans l'espace social. On sait bien, hein, stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, que avouer un vote FN est désormais beaucoup plus facile actuellement que ce ne l'était il y a 4 ou 5 ans. Ce qui a plongé d'ailleurs les spécialistes des instituts de sondage ou les entreprises de sondage dans des problèmes archi compliqués, puisqu'ils ne savaient plus comment dresser. Hein, est-ce qu'il fallait dresser en multipliant par 2, par un 5, par un 3 ? Bon, il y a un bidouillage dont ils ne sont pas sortis véritablement vainqueurs. Alors, du même coup, pour en revenir au problème du vote par genre, ou la propension à voter selon le genre Front National, les dernières enquêtes hein, nous indiquent une réduction spectaculaire du gender gap. Hein, donc la propension des femmes à voter FN serait désormais pas complètement identique, mais assez proche de celle des hommes. Alors on impute cela très généreusement au fait que Marine Le Pen est une femme, que c'est une mère de famille, et ceci et cela. Mais c'est également hein, il est tout aussi possible, l'hypothèse est en tout cas tout à fait véridique, vraisemblable, que cette réduction de gender gap soit due simplement à une plus forte dissibilité du vote FN chez les femmes. Donc, vous voyez le genre de débat dans lequel nous plonge la comparaison à 30 ans d'écart de la structure de ce vote. Alors, sous réserve de tout ce que je viens de dire, quels enseignements, bon, alors nécessairement fragiles hein, et très précautionneux, peut-on tirer sur 30 ans ? Alors, sans surprise aucune, cet électorat, vous voyez, ça y est, je cède au nom de baptême de mes collègues, hein, ce conglomérat électoral s'est beaucoup restructuré. Hein, n'a plus du tout les mêmes propriétés actuellement qu'il ne l'avait il y a 10 ans ou il y a 30 ans. Ce qui n'est pas complètement illogique, hein, si on a un peu en tête les chiffres que je vous donnais tout à l'heure hein, sur l'extraordinaire marge et fourchette hein, dans lesquelles ce débat, si j'ose dire, se vote. Alors, mais il y a également des constantes. Alors, qu'est-ce qui bouge ? Alors, ce qui bouge, hein, pour aller très très vite, hein, c'est essentiellement quatre choses. Au départ, le vote FN était considérablement sous-représenté dans les tranches d'âge les plus élevées. Alors, ce qu'on attribuait à des effets de génération, hein, et de socialisation, donc les plus âgés avaient été socialisés politiquement à l'époque des ligues, de Vichy, et avaient une sorte d'allergie à toute forme de fascisme ou d'extrême droite, ce qui est une explication qui peut sembler quand même relativement faible. Bon, cette sous-représentation du vote FN chez les plus âgés a disparu. Bon, ça, c'est un constat qu'on peut quand même relativement bien faire. Bon, ce qu'il a encore, hein, si on admet qu'à 30 ans, n'est pas non plus complètement invraisemblable, puisque les personnes âgées d'actuellement étaient les adultes d'il y a 30 ans. Bon, donc il y a des effets de cohorte, hein, qu'il faudrait pouvoir suivre. Deuxième évolution, il y avait une sous-représentation très très forte du vote Front National chez les catholiques pratiquants réguliers. Là encore, mais ce ne sont probablement plus les mêmes, ne serait-ce que morphologiquement, cette sous-représentation, hein, cette plus grande répulsion à voter FN a, semble-t-il, disparu. On a un vote des catholiques pratiquants réguliers, pour autant qu'on peut le saisir, parce que les effectifs sont plus très importants, on a un vote qui est pratiquement sur la moyenne nationale. Troisième évolution, alors je ne vais pas en dire grand-chose parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un vote qui au départ était très urbain et qui est devenu, qui s'est considérablement ruralisé. Alors j'ai un certain nombre de collègues très optimistes qui disent « bah oui, mais c'est les mêmes ». C'est-à-dire auparavant, ils vivaient en ville, maintenant, ils continuent à voter FN, mais ils sont partis à la campagne, ce qui me semble une hypothèse quand même un peu fragile. Et puis, dernier point, mais là encore, hein, je ne vous apprends rien, c'est un vote qui était très, très ancré, hein, dans les milieux indépendants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Je vous rappelle qu'en 88, l'APCS, qui accorde de très loin, hein, les plus forts suffrages au candidat Jean-Marie Le Pen, c'est la catégorie 2, hein, donc petit commerçant, artisan, chef d'entreprise, et c'est un vote, vous le savez tous, qui s'est considérablement ouvriérisé, voire même qui, dans les dernières enquêtes, hein, commence à sérieusement entamer la catégorie des employés, voire même, surprise, des employés du secteur public, voire même certaines fractions inférieures des professions intermédiaires, y compris des professions intermédiaires du secteur public. Donc on a un vote qui s'est considérablement restructuré. Je fais une petite parenthèse, mais je suppose que là encore, je ne vous apprends rien. Enfin, il est toujours bon de répéter les choses. N'oublions pas que à chaque fois qu'on cite ces chiffres, on ne cite ces chiffres que par rapport aux votants effectifs. Et j'en ai un peu assez, même si c'est répété par plusieurs de nos amis et collègues, j'en ai un peu assez de l'antienne, le vote des ouvriers, le premier vote des ouvriers, le vote Front National, et le plus fort soutien au vote Front National vient des mondes ouvriers. Je vous rappelle quand même à toute fin utile que le premier vote ouvrier, c'est l'abstention. Et qu'aux dernières élections municipales, on a un indice d'abstention pas trop mal fait qui a été construit par Ipsos. On est à 53% d'abstention chez les ouvriers et à 30-31% chez les cadres sup. Donc à supposer que, ce qui est à peu près la proportion indicative qu'on cite toujours, qu'un tiers des ouvriers votent FN, c'est en fait un tiers des votants ouvriers qui votent FN, mais comme la moitié des ouvriers inscrits s'abstiennent, en fait, on arrive à un ouvrier sur 6. Et si on intègre, là, les enquêtes électorales de l'INSEE, hein, sont assez intéressantes, si on intègre les ouvriers qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ça fait moins d'un ouvrier sur 7 qui vote FN. Bon, fin de la parenthèse, enfin, je pense qu'il est toujours utile de rappeler ça. Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas ? Ben, y a une constante, quand même, qui est le très faible niveau de diplôme, la très faible durée de scolarisation des électeurs FN. C'est pratiquement la seule chose qui n'est pas bougée, la seule constante du vote FN, alors qui en même temps nous permet quand même de réaliser, de faire la jonction avec la volatilité, puisqu'on sait que c'est chez les électeurs ayant le capital scolaire certifié le moins important, que la volatilité des votes est la plus forte, que la propension à l'abstention est la plus forte, et également que l'intérêt pour la politique est le plus faible. Donc tout ça, au total, hein, constitue quelque chose qui a l'air d'être relativement cohérent. J'indique, mais c'est une précision peut-être inutile, que quand je dis c'est la seule constante depuis 84, j'ai tort. Le vote est fait dans 84 est tout à fait particulier, puisque c'est un vote assez bourgeois. Je vous rappelle quand même que la tête de liste de la droite unie, qui est une droite d'opposition en 84, c'est Simone Veil, qui, outre le fait qu'elle est juive, est en même temps l'auteur de la loi sur l'avortement, ce qui n'a pas eu l'heure de plaire à un certain nombre d'électeurs conservateurs, qui se sont tout de suite ralliés dès 86 aux listes de droite ou candidats de droite traditionnels. Deuxième série de sondages, j'accélère un peu, les sondages donc, sur les conditions de vie, les valeurs, les perceptions, qui me semblent d'un certain point de vue plus éclairants, moins fragiles, notamment parce qu'ils sont généralement barométrisés. C'est-à-dire, c'est la même question qu'on pose à intervalles réguliers, alors, même si ça pose des tas de problèmes, parce qu'une même question peut revêtir des significations différentes à des époques un peu éloignées. Enfin, qu'est-ce que nous apprennent, mais là encore, est-ce que ça va véritablement nous apprendre grand-chose ? Enfin, si, sur un point, je pense que ça nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que nous apprennent ces enquêtes ? Donc, je répète, là, ce que je tire, c'est le baromètre politique français, les études de la Commission consultative des droits de l'homme et du Haut Conseil à l'intégration. Ça nous apprend trois grandes dynamiques. La montée en France, en tout cas chez les enquêtés, les premières enquêtes datant d'il y a à peu près 15 ans, donc on a quand même une profondeur relativement importante, la montée des attitudes xénophobes, on pourrait même dire hétéro ou altérophobes, c'est-à-dire la défiance, le manque de confiance, la haine, la détestation des autres, et pas seulement des étrangers, et pas seulement des musulmans. Ce qu'on peut repérer sur des questions, qui pouvez-vous faire confiance, avez-vous le sentiment d'eux, etc. Bon, ça c'est une montée qui est très spectaculaire sur les quatre dernières années. Donc les deux dernières années du quinquennat Sarkozy et les deux premières années du quinquennat Hollande, qui correspondent, bon, c'est une palissade, mais à la crise économique et à ce qui se passe au niveau social en termes de précarisation et à ce qui se passe sur le marché du travail, ça tombe évidemment pas du ciel. Ces valeurs ne sont pas suspendues dans le ciel pur des idées. Elles renvoient également à ce qui se passe en termes économiques et sociaux. Deuxième dynamique, bon, un sentiment, je ne sais même plus comment le nommer, de dégoût, de défiance, quelquefois même de haine, vis-à-vis de ce qu'il est convenu d'appeler la classe politique, qui est corrompue, qui ne représente que ses seuls intérêts, qui ment, qui trahit, etc., etc. Donc il y a toute une série d'items à travers toute une série de questions qui montrent que là encore, les courbes ont un profil véritablement exponentiel sur les quatre dernières années. Et on est sur des niveaux de défiance qui atteint désormais 4 enquêtés sur 5. Et troisième processus, là encore, on n'invente pas l'eau tiède en disant cela. On l'invente un peu en montrant à quel point les choses se sont dégradées ces quatre ou cinq dernières années. C'est la montée du sentiment de déclassement, c'est-à-dire le sentiment de ne pas s'en sortir, de vivre de plus en plus mal, d'avoir une vision pessimiste de l'avenir, d'être persuadé que les enfants auront des situations infiniment plus dégradées que les nôtres, etc., etc. Alors, sur ces trois, on peut construire après des échelles, mais assez souvent, c'est de la fausse science et ça ne marche pas très bien. Donc, il vaut mieux s'en tenir à un certain nombre de questions isolées. Enfin, sur ces trois dimensions, ce que l'on sait également, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tris croisés qui fait référence au vote avoué ou passé des enquêtés, ce qu'on sait, c'est que sur ces trois dimensions, les électeurs du Front National sont sur les positions les plus polaires et de très loin. On parle quelquefois d'un rapprochement en termes de valeurs entre les électeurs de l'UMP et les électeurs du FN, si vous faites simplement des axes très très bêtes, sur les attitudes xénophobes, voire altérophobes ou hétérophobes, sur le sentiment de corruption, de césure complète de la classe politique et sur le sentiment de déclassement, les électeurs qui se réclament du Front National sont très très loin. Sur cette échelle. Du même coup, on comprend mieux la montée du potentiel électoral. Si à la fois vous avez monté hein, de ces trois dimensions et que systématiquement les électeurs du Front National sont une extrémité de l'axe, on a une explication finalement assez simple, trop simple hein, probablement, de cette montée. Alors, ces explications hein, sur les dispositions, les valeurs, hein, dont je rappelle qu'elles ne plaident pas dans le ciel plus des idées, qui incitent au vote FN, leur problème, à mon avis, hein, et ça pourrait faire l'objet d'un débat sur lequel moi je n'ai pas du tout les idées claires, le problème c'est que ces explications hein, souffrent de se situer à un très haut degré de généralité. Pour ne pas citer Bourdieu, hein, quand il n'était pas de bonne humeur, hein, il disait « c'est même pas faux ». Bon, voilà. Tous ceux qui ont des attitudes hétérophobes, qui sont dégoûtés de la classe politique, qui ont un sentiment de déclassement, ne votent pas Front National, même si on sait bien que la sociologie électorale, comme toutes les sciences sociales, est une discipline probabiliste. Hein. Donc, même s'ils ont de plus fortes probabilités de voter Front National, on sait bien que tous ceux qui partagent hein, l'une, deux ou trois de ces dimensions hein, ne sont pas condamnés, si j'ose dire, à voter Front National. Donc ce qui m'embête, c'est... On va prendre un exemple, parce que je crois que je suis trop généraliste en disant ça. Ce qui m'embête, c'est que c'est par exemple le schéma du déclassement. Alors, c'est une sorte d'autocritique, parce que moi j'étais l'un des premiers en 2002 à dire, bon ben voilà, c'est très compliqué, le Front National, ça vient, enfin les électeurs du Front National, ils viennent d'horizons très divers et tout, mais finalement, s'il y a un point commun, c'est qu'ils se perçoivent tous, subjectivement, à tort ou à raison, comme étant dans des situations, comme vivant une situation de trajectoire sociale descendante. Trajectoire sociale, biographique, familiale, professionnelle, peu importe. Bon. Donc, bon, moi, jusqu'à une date récente, je trouvais que ce schéma était intéressant pour donner du lien, pour essayer de comprendre quand même ce qui réunissait tous ces électeurs permanents ou virtuels. Bon, en même temps, vous admettrez avec moi que c'est une clé qui ouvre trop de portes. Quoi, hein. Et puis, ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, c'est le même schéma du déclassement qu'on a utilisé pour expliquer mai 68, voire qu'on utilise pour expliquer la Révolution française et les intellectuels pour les taroïdes. Donc, à un certain moment, je mets pas à la poubelle ce schéma, mais force est de constater qu'il est probablement un trop général. Alors peut-être, mais je suis également très général en disant ça, qu'on pourrait faire appel à un autre concept de Bourdieu qui est celui de l'homologie. Hein, et même s'il est impossible de le démontrer mathématiquement, mais c'est pas grave, je pense qu'on tient quand même un fil relativement solide, un fil directeur relativement solide. Si on admet que moi, électeur du Front National, me vivant comme étant aux marges hein, de l'espace social, comme étant abandonné, comme étant laissé pour compte ou laissé à mon propre sort, je peux tout à fait me reconnaître dans la position complètement marginalisée, ostracisée de Jean-Marie puis de Marine Le Pen dans le champ politique. Vous avez une sorte de phénomène hein, d'homologie qui, à mon avis, hein, même si on ne peut pas le démontrer par A plus B, joue beaucoup, mais qui en même temps, politiquement, pose des tas de problèmes. Parce que plus on ostracise le Front National en tant que formation, plus finalement on active hein, ce phénomène d'homologie hein, qui fait que les ostracisés se retrouvent dans la formation qui est la plus ostracisée. Et en même temps, faut-il ou pas l'ostraciser ? Donc, est-ce que la stratégie de containment hein, est ou non payante électoralement ? Bon, je passe sur la deuxième technique, hein, la géographie électorale. Bon, c'est-à-dire simplement à mettre en relation hein, les résultats hein, qu'obtiennent les différents candidats du Front National aux différentes élections avec un certain nombre de propriétés sociales, des lieux sur lesquels on les étudie. Alors, ça nous permet d'avoir deux confirmations et deux nouveautés. Première confirmation, la profonde restructuration de ce vote. Donc là, bon, il suffit hein, de produire hein, des courbes hein, ou des nuages de points, c'est très très simple. Hein. La première apparition du vote Front National en 84, c'est les centres-villes bourgeois. Bon, moi, dans ma région, Picardie, hein, les trois villes qui accordent le plus de suffrages aux européennes de 84 au Front National, c'est, ça va tout de suite vous dire quelque chose, Chantilly, Senlis et Compiègne, voilà, en 84. Et puis, dès 86, c'est Creil, où c'est les quartiers nord d'Amiens. Peu à peu, hein, à partir de 95, alors évidemment, on ne va pas faire une chronologie, idéologie très très précise, mais enfin on voit bien comment ça se déplace. On est de plus en plus sur un vote périurbain et on est depuis 2002, depuis 2007 et plus encore depuis 2012 sur un vote franchement rural. Donc vous avez une sorte de relation alors, qui est éclatante hein, quand vous mettez simplement en relation la taille de la commune et le vote FN. Et là, ce n'est pas des données de sondage, hein, c'est, si j'ose dire, du dur et du réel. Il n'y a pas d'histoire de décibilité ou de redressement. Vous aviez une courbe qui, vote FN, taille de la commune, était comme ça hein, en 86 et qui est maintenant exactement comme ça. Donc là, c'est une profonde restructuration hein, que la géographie électorale ou l'analyse écologique permet de voir. Ce que ça permet de voir également, j'ai un papier là-dessus que, alors ça pose des débats, ça pose des problèmes, je suis désolé de ne pas pouvoir participer au débat parce que je voudrais bien en parler. C'est un papier que je n'ose pas sortir hein, parce que quand vous travaillez sur les coefficients de corrélation hein, entre, par exemple au niveau des cantons, des 4000 cantons, donc c'est quand même pas tout à fait rien, entre les votes FN, notamment présidentiels, et les positions, les propriétés sociales, notamment les professions et catégories socio-professionnelles, des électeurs, par canton, saisis au niveau le plus fin, enfin, dont on dispose, c'est-à-dire les PCS à deux chiffres, hein, donc pas seulement les ouvriers, mais les ouvriers qualifiés, non qualifiés, industrie, artisanat, chauffeurs routiers, ouvriers agricoles, donc une nomenclature plus fine, les coefficients de corrélation les plus forts, hein, avec le vote Le Pen, c'est ouvrier. Ça, il n'y a pas de problème, enfin, statistiquement, je pense que... Il n'y a pas d'ambiguïté, hein, quelle que soit l'échelle que vous preniez, avec des choses assez bizarres que je n'arrive pas à m'expliquer. Plus les ouvriers qualifiés que non qualifiés, et coefficients de corrélation plus importants chez les ouvriers qualifiés de l'industrie que chez les ouvriers qualifiés de l'artisanat. Bon, donc ça c'est une deuxième confirmation hein, bon, qui, par rapport à ce que donnent les données de sondage. Alors, les choses qui changent peut-être un peu... alors je vais juste en donner une, hein, parce que je vois bien que... Oui, il faut que je finisse bientôt. C'est le rôle joué par les inégalités, ça c'est très très important. C'est-à-dire on peut faire là encore des diagrammes très très simples, hein, enfin, qui demandent juste d'avoir les données. Donc une fois que vous avez constitué les bases de données, c'est simple. Si vous travaillez sur la plus ou moins grande richesse ou pauvreté des communes, hein, vous pouvez mettre ça en abscisse, avec un indicateur comme, je sais pas, le revenu médian des ménages. Hein. Donc globalement, hein, les communes les plus pauvres vont avoir un vote Front National plus important. Et les communes les plus riches, Boulogne-Billancourt, le 16e, Neuilly, vont avoir un vote Front National plus faible. Bon, ok. Mais ça ne marche pas du feu du diable. Hein. Ça ne discrimine pas véritablement les votes. Ce qui discrimine les votes, c'est quand vous introduisez une deuxième variable, et là c'est très intéressant, qui est, alors, par exemple, moi j'ai pris le coefficient de Gini, c'est-à-dire les inégalités de revenus à l'intérieur d'une commune. Plus les inégalités de revenus à l'intérieur d'une commune sont fortes, à revenu moyen constant, et plus la probabilité du vote FN est forte. Alors, je ne sais pas si après on pourrait prendre des exemples, on n'a pas le temps. Fréjus-Saint-Raphaël, par exemple. Alors, Saint-Raphaël, revenu un peu supérieur à Fréjus, et en même temps, un coefficient de Gini sur Fréjus, hein, des inégalités à Fréjus, hein, qui sont infiniment plus fortes qu'à Saint-Raphaël. Et on pourrait prendre, je ne sais pas, Lille par rapport à Montpellier, par exemple, ou Montpellier par rapport à Béziers. Et on verrait, donc là c'est très intéressant, parce que c'est à la fois des inégalités objectives, hein, c'est mesuré statistiquement, mais en même temps, comme on travaille quand même sur des petits périmètres, c'est des inégalités bon, vécues. Hein, il y a une ségrégation spéciale hein, qu'on ne peut pas ne pas vivre. Quand on travaille à Lille, par exemple, Lille est une des villes qui a le coefficient de Gini le plus élevé. Hein, mais si vous allez un peu à Lille, entre les quartiers sud et le centre-ville de Lille, bon, vous comprenez tout de suite de quoi il retourne. Alors, autre technique, mais je vais devoir conclure, hein, les entretiens. Alors, le problème des entretiens approfondis, c'est qu'il faut trouver des électeurs Front National. Hein. Paradoxalement, c'est très facile de discuter avec des cadres du Front National. Hein. Ils adorent raconter leur vie. Ils sont très flattés qu'on vienne les voir. Et donc, ça leur donne un surcroît de légitimité. Bon, les électeurs, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, pas seulement parce que le vote Front National n'est pas dissible, ou peu dissible, ou ne l'a pas toujours été, mais également parce que ces électeurs, généralement, n'ont pas un gros intérêt pour la politique, ont de fait une faible compétence politique, et donc détestent être mis dans la position hein, de l'élève qui doit répondre aux questions du prof sur des questions politiques. Donc, ça pose des tas de problèmes hein, d'interroger les électeurs du Front National, et mieux vaut hein, avoir recours au récit de vie. Et dans ce cas-là, bon, ça donne quoi ? Bah, ça enrichit considérablement hein, quand même les données de sondage, notamment toutes ces données sur les attitudes. Ça nous montre que finalement, il y a peu de racisme. Mais par contre, hein, effectivement, que cette défiance vis-à-vis des autres, l'étranger pouvant simplement se limiter aux gars qui ne sont pas du coin. Hein. renvoie généralement à une situation de très grande inquiétude par rapport à la concurrence généralisée sur les marchés du travail, du logement ou sur le marché des aides sociales. Renvoie, ce que ça nous apprend également, enfin moi ça me frappe toujours beaucoup, c'est la détestation de l'assistanat social. Et au-delà, et là c'est quand même très grave, du système de protection sociale, qui ne bénéficie qu'aux autres, et en fait qui bénéficie aux bougnoules, ou aux bougnoules blancs. On a eu cette expression qu'ont recueilli deux collègues du CURAP, Sébastien Vignon et Emmanuel Pierru. Vignon et Pierru étaient très énervés, de temps en temps on perd son calme en entretien, par quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire « bon voilà, les allocations c'est que pour les étrangers », et à un certain moment ils interrompent l'électeur et ils lui disent « bon mais il y a également des blancs hein. ». Ah ouais, vous avez tout à fait raison, ceux-là je les appelle des bougnoules blancs, oui, une grande inventivité lexicale dans tout cela. Et puis quand même, alors, mais là ça suppose entretien approfondi, ça suppose une certaine intimité, hein. L'idée que longtemps j'ai cru fantasmer d'être sur une pente sociale déclinante est une idée quand ces électeurs vous racontent leur vie, est une idée qui prend quand même un peu de chair. C'est pas complètement fantasmatique, mais qui s'enrichit considérablement parce que derrière tout ça, vous avez toute une série d'accidents biographiques, beaucoup de divorces, une rupture à peu près complète avec les enfants, etc. Et bon, alors là encore, vous voyez, on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'il n'y a pas que les électeurs du Front National qui divorcent ou qui ont des problèmes avec leurs enfants. Je suis quand même surpris, bon, il y a une thèse d'une de mes doctorantes, Christelle Lager, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, du non très important de décalage et d'accident biographique chez les électeurs. Là, ici, c'est des électrices du Front National. Mais il y a des tas de choses que... J'ai pas de formation psychosociologie et j'ai même une petite distance par rapport à cette discipline. Mais par exemple, l'amour, voire la dévotion des animaux par rapport à la haine des humains, bon, c'est quelque chose que vous rencontrez tout le temps. Je sais pas quoi en faire, mais bon, je vous soumets ça. Voilà. Bon, alors, je termine, j'ai pas de temps de parler des observations ethnographiques. Je termine en signalant quand même, alors il y en a des tas, mais un gros manque dans mon exposé, c'est que j'ai pas parlé de l'offre, évidemment. Et ça, c'est le maillon qu'il faut, évidemment, quand je dis un maillon, c'est trop faible, qu'il faudrait introduire. Le vote, c'est finalement l'expression de goûts et de dégoûts sociaux informés par des trajectoires biographiques sous contrainte d'offres. Et donc, il faudrait à chaque fois réactiver, pour comprendre tout ça, la structure de l'offre, la structure de l'offre politique, donc imputer la responsabilité des formations politiques classiques qui, certes, ont cru faire le travail en ostracisant plus ou moins ouvertement le Front National, mais qui ont installé les problématiques du Front National au cœur du débat politique. Je crois que le grand succès du Front National, ce n'est pas tellement le fait qu'il remporte 11 mairies ou 12 mairies, ou qu'il fasse 17%, c'est que les problématiques, c'est-à-dire au sens fort du terme, les manières de poser le problème ou les problèmes du Front National, sont désormais au cœur du débat politique, et on ne se positionne plus que par rapport à ces problématique. Là, je crois que la responsabilité, outre les politiques publiques suivies, des responsables politiques classiques est évidemment assez écrasante. Voilà, je suis désolé de bâcler tout cela. J'ai encore 15 secondes, peut-être.
Ouais, pas trop, ouais. Mais
au point où on en est. Oui, mais ça reste très impressionniste. Mais j'ai essayé de trouver des points communs entre les 28 communes qui ont accordé, vous voyez, c'est un chiffre un peu arbitraire, qui ont accordé plus de 30% au Front National lors des dernières municipales. Et j'ai trouvé 5 variables, je parle le langage des variables quitte à me faire assassiner, 3 sociales et 2 politiques. Toutes ces communes, c'est assez frappant. 1, sont des communes pauvres, ce qu'on repère sur le revenu médian. 2, des communes qui s'appauvrissent de plus en plus, qui sont en déclin dans le pire des cas démographiques, mais également économique, industriel, disparition des commerces en centre-ville, etc., etc. 3 sont les communes, je le disais tout à l'heure, où les coefficients de Gini, les inégalités, sont les plus fortes. 4 sont des communes, et là, on a des variables proprement politiques, où les municipalités sortantes ont failli, avec des scandales, des mises en examen, etc., etc. Et 5, où il y avait quand même une armature militante du Front National, voire un responsable un peu saillant. Ces deux dernières dimensions que j'ai volontairement négligées sont quand même des dimensions qu'il faut toujours quand même intégrer dans l'analyse pour essayer de comprendre pourquoi à un certain moment il y a tant de pourcents à Béziers ou tant de pourcents à Perpignan et pourquoi des villes apparemment proches ont des scores très largement inférieurs. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long.
Merci.
Donc il nous reste 7 minutes de questions-réponses et on prolongera la discussion après le départ de Patrick Lehung. Donc vous avez la parole.
Ouais, toute petite question très rapide, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Vous avez mentionné la notion d'homologie et donc par rapport à l'ostracisation et à l'inverse. La surmédiatisation actuelle du Front National, ça produit quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de... Parce qu'apparemment, vous dites l'ostracisation ne fonctionne pas puisqu'il y a ce phénomène d'homologie. Mais à l'inverse, la surmédiatisation actuelle, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça fait quoi ça?
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Voilà, parce que sinon, on ne va pas...
Je voudrais peut-être vous donner l'occasion de développer un peu ce dont vous avez parlé rapidement, c'est-à-dire le problème de l'offre. Est-ce que vous avez des données par rapport à ça?
J'ai une question par rapport à ce que vous disiez sur les incidents biographiques, en fait, et les conséquences éventuellement, enfin, en tout cas le nombre d'incidents biographiques qu'on retrouve. J'ai pas inventé la poudre en disant ça, mais ça me questionne parce que est-ce que finalement c'est pas surtout les gens qui ont le plus de facultés à être en situation d'incident biographique qui sont aussi peut-être au niveau des propriétés ceux qui auraient le plus tendance à voter Front National et tout simplement sur des incidents biographiques comme par exemple les divorces pour qui ça représente un incident biographique, ce qui n'est pas forcément le cas peut-être pour les gens qui votent sur d'autres partis et qui sont sur d'autres valeurs.
Par rapport à leurs valeurs. Une dernière. Oui.
Je m'interrogeais en fait sur ce que vous pensiez de l'approche d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras qui avaient l'air de dire dans le ministère français que justement en fait il n'y avait pas forcément vocation, enfin que le FN n'avait pas forcément une capacité à se développer de manière importante dans les années à venir au regard d'une approche démographique et sociale croisée.
D'accord. Une ultime ? Non. Voilà.
Bon, alors, je suis vraiment désolé de bâcler, mais de toute façon, une fois parti, je pense que le débat va continuer, il n'y a aucun problème. De bâcler mes réponses. Sur la surmédiatisation, je pense que ce n'est pas du tout contradictoire, hein, parce que quand on surmédiatise tous les discours des hommes politiques de l'UMPS, comme le dit Marine Le Pen, hein, qui ostracise. Donc on renforce encore, chez des électeurs qui sont généralement faiblement politisés ou faiblement intéressés par la politique, on renforce ce sentiment d'un leader politique qui est vraiment pas bien traité, qui est maltraité, comme nous-mêmes nous sommes, quoi. Donc je pense que c'est, les deux fonctionnent. Alors, ça va me permettre par la bande, Bertrand va pas être content, de réintroduire ma dernière technique, observation ethnographique. Hein, ce que ça permet, observation ethnographique, hein, sur longue distance en tout cas, ça permet de repérer, c'est l'un des ressorts, à mon avis, du vote FN en milieu rural, à quel point les lieux de sociabilité sont en train de disparaître dans un très grand nombre de communes. Hein, donc, les services publics, hein, les postes, les écoles, mais également les églises, les boulangeries, les cafés, les fanfares, les bon voilà. Et du même coup, le sentiment de très grand. Alors, c'est d'abord un sentiment d'abandon, avec l'idée qu'il y en a que pour les quartiers, hein, les quartiers des grandes villes où évidemment sont concentrés les immigrés. Donc ça fait système, c'est très bien. Et puis, en même temps, on a un sentiment d'isolement de plus en plus important qui fait que le discours des médias, parce que vous parliez de surmédiatisation, maintenant n'est plus médiatisé précisément, n'est plus filtré par des groupes primaires. Hein. On avait, hein, toute la sociologie de la communication nous apprend ça, hein, y compris des auteurs comme Hogarth, etc., hein, nous apprend qu'il y a des mécanismes, hein, de réception très sélective au sein des groupes primaires. Ces groupes primaires sont en train dans certaines communes, de disparaître. Et moi, j'étais très surpris, sur les entretiens approfondis, de voir la fréquence des gens qui, habitant des villages où il n'y a pas un seul immigré, où il n'y a pas un seul cambriolage, etc., vous font part d'émissions que nous, intello, méprisons complètement, voire même n'avons jamais vues, comme W8. Comme W9 et D8, hein, sur on va suivre la BAC, etc., etc. Ça, je peux vous dire que ça a des audiences fantastiques. Et sur la surmédiatisation, il y a un effet politique, hein, qui me semble vraiment, mais qui ne joue que parce que justement, hein, il n'y a plus, hein, ces lieux de sociabilité, de discussion informelle qui permettaient, hein, d'en prendre et d'en laisser, comme on dit. Sur l'offre, je peux malheureusement rien vous dire de structuré, enfin de sérieux. Hein, sur, sinon, on va travailler effectivement sur le. Là, les municipales, c'est bien, parce qu'on voit les listes où ils ont réussi à construire, enfin les villes où ils ont réussi à construire des listes, et des villes où ils n'ont pas réussi. On a des villes où Marine Le Pen faisait 30%, où on n'a pas pu réussir, ou n'ont pas pu réussir à construire des listes. Et là, il y a des effets qui sont assez importants. Mais sur l'offre politique et la responsabilité, notamment des grands partis de gouvernement, dans la structuration de ce vote, on ne peut malheureusement rester qu'au stade des généralités. Sur les accidents biographiques, oui, je pense qu'on pourrait probablement... Moi, je plaiderais pour qu'on introduise dans des grandes enquêtes d'opinion, hein, des questions un peu plus intimistes sur... les divorces, les relations avec les parents, avec les enfants, etc., etc. Donc, toutes choses, hein, qui font les conditions d'existence concrète des individus. Je pense qu'effectivement, il y a une plus forte fréquence. Mais vous avez raison, un divorce, ce n'est pas nécessairement un accident biographique, en tout cas extraordinairement malheureux. Mais compte tenu du fait que généralement, ces populations, hein, sont des populations à faible revenu, à faible niveau de diplôme, bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, les divorces ont des coûts, entraînent des traumatismes, y compris financiers, infiniment plus importants chez les habitants ayant des revenus modestes que chez les plus riches. Hein. Ça paraît assez évident. Alors sur Todd, les cartes sont belles. Enfin, je vous rappelle que quand même, il y a un substrat anthropologique qui, moi, me laisse complètement interdit, quoi. Auquel je ne comprends strictement rien. Et il me semble quand même que si on actualise aux toutes dernières consultations, on a une percée du Front National en Bretagne, par exemple, qui est quand même très spectaculaire. Les écrits, les théorisations de Todd sur la famille souche, la famille nucléaire, et toute cette anthropologie qui remonterait au Moyen-Âge, tombe très largement par terre, enfin, est démentie actuellement par un certain nombre d'évolutions. Je suis désolé.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, Pierre Gumeau est là-bas. Donc, je dis ça pour Rémi Lenoir et Patrick qui sont là et qui vont repartir avec lui vers la gare. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui sont intervenus pendant ces deux journées. Dont quelques-uns vaillamment restent encore parmi nous jusqu'à la fin et qui pourront peut-être participer au débat et nous apporter des éclairages complémentaires sur ce que vient de développer Patrick Lehing. Donc peut-être reprendre la discussion et mettre en débat entre nous ce qui vient d'être dit et peut-être aussi ce que nous avons débattu depuis deux jours. Pour dire les choses comme ça, pour lancer la discussion, une fois que l'on a dit qu'on comprend bien que la situation économique, les difficultés que rencontrent les territoires sur le plan de l'évolution de la situation globale quand il y a des accidents industriels, mais pas seulement, quand en fonction de l'avenir même du territoire, que ça a des incidences. Une fois que l'on a dit que l'offre politique, évidemment, joue un très grand rôle, ou plus exactement, que les espérances suscitées notamment par la gauche et les déceptions suscitées par la même gauche, une fois qu'elle est au pouvoir, jouent sans doute un grand rôle dans la recherche de coups politiques que peut porter l'électeur contre la classe politique quand il a le sentiment de la trahison. Bon. Une fois que l'on a dit tout ça, et on va sans doute en rediscuter, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Et en quoi les analyses qui sont développées par les sciences sociales nous disent quelque chose de plus? Il y a tout ce que l'on vient de voir là, hein, le fait que au moins on puisse sortir d'un certain nombre de visions un peu vite faites qui soit qualifient le vote frontiste de vote ouvrier pour mieux le disqualifier. Donc, complexifier un peu les choses, ça permet de voir qu'il y a quand même un ancrage historique dans certaines catégories, des petites classes moyennes à capital économique qui voient d'un assez mauvais œil d'autres manières de trouver sa légitimité dans l'espace social, mais qu'ensuite elles ont su agréger autour d'elles d'autres composantes qui venaient vers ce vote-là pour d'autres raisons souvent, mais avec des traits communs. Bon, voilà. Donc déjà, cette complexification de l'objet permet à la fois de sortir d'une vision par l'anathème et la disqualification du peuple, en quelque sorte, mais aussi permet de mieux comprendre peut-être les raisons de l'évolution, les raisons spécifiques de telle ou telle catégorie à voter pour tel ou tel, pour le Front National ou pour les succès d'année de la droite qui s'offrent parfois au vote. Et puis, évidemment, en contrepoint, ça permet de réfléchir à la manière dont les autres composantes de l'offre électorale savent ou ne savent pas s'adresser à ces catégories pour déplacer hein, le vote ou peut-être surtout mettre en mouvement ces catégories sociales. Donc tout ça, évidemment, je pense, on va en rediscuter, se déduit un peu de ce qui vient d'être présenté. Mais ces deux jours, on a également insisté sur d'autres questions qui ont tout à fait leur place et qui me semblent tout à fait complémentaires. Sur la question du vocabulaire, c'est quelque chose qui est beaucoup intervenu, notamment hier. Hein, la manière dont on parle, dont on qualifie les phénomènes sociaux, la manière dont dans la lutte politique, ce vocabulaire de désignation des choses sociales sont utilisés. La manière dont on tend à s'enfermer dans le vocabulaire d'une certaine forme de classe technocratique participe sans doute de cela. Hein. Les mots sont des enjeux de lutte, on a dit hier et aujourd'hui. Et cette question du vote frontiste, elle a beaucoup à voir avec ces questions dont on a parlé hier. Quand on ne sait plus parler de la protection sociale, quand on ne sait plus parler de l'État social, quand on ne sait plus parler des classes sociales et qu'on se laisse enfermer en quelque sorte dans le vocabulaire de la gouvernance ou dans des débats sur tel droit pour telle catégorie de la population ou quand on se laisse enfermer dans un débat sur la laïcité pipé d'avance en quelque sorte parce qu'on n'en a pas redéfini les termes, qu'on n'en a pas redéfini les enjeux sociaux. Bref, ces questions de vocabulaire me paraissent importantes et continuent, enfin poursuivent en quelque sorte ces enjeux de compréhension de l'élection, des votes, parce qu'ils nous amènent sur le terrain des campagnes électorales en quelque sorte, hein, de la manière dont on s'adresse à la population et dont on construit les débats publics. Mais aussi, peut-être, au-delà des mots eux-mêmes, la manière de construire les enjeux de société, de construire les débats publics, la question de, y compris, de prendre les enjeux dits sociétaux. On a beaucoup parlé de cela, rappelez-vous, au moment du mariage pour tous. Et parfois, les débats ont été les mêmes, quasiment dans les mêmes termes, sur les questions de racisme. Les militants de gauche sont traversés d'interrogations sur le mode. Est-ce bien le moment de parler du droit des homosexuels? Faut-il d'abord mettre en avant les questions antiracistes? Ou bien parce qu'il faut reconquérir un électorat ouvrier qui est dans un relatif ou parfois problématique sentiment par rapport aux autres, d'abord leur parler de questions sociales et d'abord argumenter sur la question sociale? Moi, il me semble, mais c'est une hypothèse que je fais et que je voulais mettre en discussion, que ce que nous disent nos discussions, c'est d'abord la manière de parler de ces questions-là. La manière de parler de la famille, la manière de parler de l'école, la manière de parler des manifestants, des manifs pour tous, au travers de leurs intérêts, et pas simplement de s'enfermer dans la manière dont on en parle. Si évidemment il s'agit de choisir son camp entre des gays du marais fortunés qui peuvent se payer le GPA, etc., qui ont le droit d'être défendus par ailleurs. Hein. Mais si c'est ça, la caricature qui est faite des droits des homosexuels et qu'on s'enferme dans ce débat-là par rapport à... évidemment, le gars qui a que son bulletin de vote pour contester va peut-être se ranger dans un autre camp. Si l'on parle, par contre, de celui qui va manifester parce qu'il a des intérêts, qu'il a une fortune, qu'il a une tradition, etc., ou qui le protège de tout et qu'il veut régner sur tout, y compris sur la vie de la famille des autres, alors qu'il faudrait bien mieux parler des conditions de vie des familles, de la manière dont les droits qui sont donnés aux familles populaires ne sont plus respectés aujourd'hui, ce à quoi nous incitait Rémi Lenoir tout à l'heure. Eh bien, peut-être que ça nous dit des choses sur la manière, non pas forcément de manière morale, conserver un engagement sur ces questions-là, mais au fond d'être un peu embarrassé avec eux, ou alors de jouer la division du travail à l'LDH, où on laisse traiter cela, et puis... Les politiques, on ferait que du social ou on ferait que de l'amour de la cité, tous ensemble, c'est la paix formidable. Peut-être qu'il y a moyen aussi de parler de ces questions-là d'une autre manière et de relier les questions entre elles pour montrer qu'on vit quand même dans des rapports de classe et que toutes ces questions-là sont liées les unes aux autres. Voilà, enfin, bref. Et puis, il y a bien sûr la question de à qui on parle. Hein, parmi ces différents groupes, tous ne sont pas agis par les mêmes raisons. Et peut-être qu'il y en a à qui c'est plus important de parler que d'autres, parce que c'est avec cela qu'on peut reconstruire les solidarités qui permettent de construire des groupes un peu en action. Voilà, c'était juste pour relancer la discussion et pour se passer de notre intervenant principal. Mais sans doute, vous avez vous-même beaucoup de choses à dire, et sur ce qu'a dit Patrick, et sur ce que nous avons discuté depuis 2 jours.
Mais moi, c'est un témoignage. J'ai fait la campagne électorale là, pour les municipales sur Poitiers. Et donc, on distribue des tracts et il y a des gens qui réagissent. Et des choses qui sont revenues souvent, c'est contre les immigrés, contre les étrangers, etc. Et le plus souvent, ce que je fais pour casser le discours, c'est essayer de replacer la question sociale hein, avec l'actualité du pacte de stabilité où, en fait, on va nous piquer 35 milliards pour les donner aux plus riches. Hein. Donc, c'est Robin des Bois à l'envers. Hein. Donc, j'essaie d'introduire quelque chose qui est de l'ordre du social plutôt que de l'ordre du racial. Hein. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas ça, c'est comment réagissent les gens face à ce discours-là. Et en général, il y a 2 types de discours. Il y a ceux qui ne connaissent rien, qui ne savaient même pas qu'on allait leur piquer 50 milliards. Il y en a beaucoup. Hein. Et qui disent, oui, mais tout ça, c'est quoi ces chiffres-là? Je ne les connais pas, ce n'est pas sorti à la télé. Moi, je regarde, on parlait de W8, etc. Moi, je regarde à la télé, ils ne disent pas ça. Et il y a un gros problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'au marché de la ZUP, on n'est plus chez soi. D'accord ? C'est-à-dire une absence complète de connaissances et les gens se fient complètement à la télévision. Ça, c'est le premier cas de figure. Et l'autre cas de figure aussi qui est intéressant, c'est les gens qui disent « Oui, d'accord, il y a les riches, etc., mais vous croyez qu'on arrivera à leur piquer le pognon ?» Et on n'y arrivera jamais, ils sont beaucoup plus forts, ça y est, ils ont gagné. Donc maintenant, le problème, c'est parmi les classes populaires moyennes et puis les classes défavorisées, le problème, c'est de savoir qui c'est qui s'en tire. Et les 50 milliards, d'accord, on les a perdus, mais maintenant, tout ce qui est assistana, tout ce qui est état social, sécu, etc., il n'y en a pas pour tout le monde. C'est-à-dire, on nous en laisse, à la grande partie de la population, on nous en laisse de moins en moins de pognon. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc, les classes moyennes, qui sont en train de perdre du pouvoir d'achat, de l'importance, etc., eh ben, elles ne peuvent plus donner aux pauvres, parce qu'il y a qu'elles qui donnent aux pauvres, ce qui est vrai aussi. Hein. Et donc c'est le discours de dire il n'y en a pas pour tout le monde, etc. Une autre réflexion, c'est par rapport à l'égalité. C'est un thème que je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Je me rappelle, en 2003, on avait fait des mouvements de grève très importants pour les retraites. Et il y avait toujours quelqu'un qui nous disait, oui, mais dans le privé, moi je suis fonctionnaire, hein, dans le privé, nous on a morflé pour les retraites et vous n'étiez pas là. Ce qui est faux, moi j'y étais, mais bon, les gens s'en foutaient. Le problème, c'est moi, je morfle, et donc vous aussi, vous devez morfler. C'est-à-dire, l'égalité, on sait, on n'a pas confiance au fait que vous puissiez gagner, et donc, puisque vous ne pouvez pas gagner, il faut que vous soyez à égalité de nous, c'est-à-dire dans la merde. Et par contre, si on avait gagné, là, les gens auraient dit « et nous ». D'accord. Et donc, il y a cette idée d'égalité, mais d'égalité qui peut être, c'est la devise de la République, hein, mais qui peut être égalité dans la catastrophe, quoi. Ce sentiment d'égalité est à double tranchant. Et enfin, dernière chose, c'est par rapport à l'identité aussi. Quand les gens sont perdus, parce que même au niveau politique, là, qui s'y retrouve, hein, actuellement, c'est d'une complexité folle. Les évolutions de la société, c'est de la folie. Je veux dire, la dette, hein, qu'on a quelques années, la dette, avant, on n'en parlait jamais. On parlait de la sécu, des trucs comme ça. Mais la dette, d'un seul coup, il y a une dette. Il y a plein de crises. Il y a des pays qui s'effondrent, etc. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il y a une peur, hein, qui se diffuse, hein, qui est dans les médias, on joue à fond là-dessus. Et après, il y a une recherche d'identité. Alors, l'identité qui peut être nationale, hein, mais qui peut être aussi par le métier, qui peut être par le lieu d'habitation, etc. Il y a une fuite vers l'égalité de la tribu, quoi. J'ai l'impression.
Je ne savais pas que les électeurs du Front National, ils étaient aussi... c'était un des marqueurs, c'était qu'ils étaient contre la protection sociale. Or, dans les dernières mesures de Valls, il y a quand même une bonne nouvelle pour ceux qui sont au SMIC, c'est qu'ils ne vont plus payer de cotisations sociales, et donc ils vont avoir plus d'argent. Ce qui veut dire que dans le sens commun, ça va de soi, quoi. Plus on fout en l'air la sécurité sociale, plus ça veut dire qu'on a plus d'argent directement. Donc il y a vraiment un travail à faire sur puisque nous on veut la défendre, la sécurité sociale, que c'est tellement contre le sens commun, puisque c'est dans le sens commun que ça va être détruit, démantelé, et qu'il faut que chacun ait plus d'argent directement, et c'est comment on va pouvoir arriver à se saisir de cet enjeu-là. Parce que moi, il y a des débats où Pascal était des fois, etc. C'est quand même des trucs hyper techniques, où ne parlent que des gens qui ont été permanents syndicaux et des profs de fac, quoi. Autrement, on est amateur. L'autre chose, c'est sur la question de l'ostracisme. C'est vrai que c'est quand même une sacrée victoire symbolique qu'ils aient pu arriver à faire dire que le type de l'homosexuel, c'était un homosexuel qui était riche, etc. Alors que la vie terrible du jeune homosexuel en milieu rural est quand même connue, mais évidemment, il va pas passer à la télé parce qu'il a pas envie de se faire foutre sur la gueule aussitôt après. Sur la question d'être ostracisé, ce qu'on peut voir comme à l'inverse, c'est à quel point ça a pu être... Mélenchon a essayé de prendre le truc en engueulant tous les journalistes avant qu'ils posent la première question, et à force, ça marche pas, quoi. Mais peut-être que parce que c'est un ancien ministre, alors que les fascistes, réellement, ils ont été ostracisés du pouvoir depuis 1944. C'est tout. Merci.
Je vais juste faire une remarque. Vous avez parlé de vocabulaire et de mots comme gouvernance, etc. Le vocabulaire, il ne vit pas tout seul dans son coin. Il est associé à d'autres mots. Il est, surtout dans le cadre de gouvernance, c'est un mot qui a été inventé, qui a été créé, qui a été inspiré par d'autres mots. Et puis, il y a la syntaxe qui va avec. Et la syntaxe qui va avec, il se trouve qu'elle passe très, très bien. Et il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. Ce n'est pas seulement du vocabulaire... chargé, c'est de sens, etc. S'il y en a vraiment de sens. mais c'est la syntaxe qui va, la grammaire, la, toutes les formes qui les véhiculent. On parlait, Pascal parlait de problèmes de compréhension. Tout à l'heure aussi, on a évoqué cette question-là, des compréhensions de questions financières, économiques très compliquées. Souvenez-vous, quand on a perdu le triple A, c'était une grosse catastrophe, tout le monde parlait de ça, ma belle-mère parlait de ça beaucoup. mais non, mais c'est vrai. Et c'est devenu un gag, pour moi, c'était un moment, voilà, j'ai perdu mon triple A comme si j'avais perdu mes clés. Enfin, il y avait un côté complètement stupide là-dedans. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a vraiment une banalisation des questions techniques que personne ne maîtrise. Enfin, moi, je ne maîtrise pas du tout, pourtant je suis prof de fac, je ne comprends pas ça. Et donc, je veux dire, il y a vraiment un endormissement avec des mots complexes, avec des concepts ultra complexes qui jouent énormément, il me semble, dans cette abêtisation totale des gens. Et donc, après, on a recours à la facilité, on a recours à des tas de choses qu'on a déjà évoquées là. Mais je pense que tout ça forme un tout assez complexe. Mais le rôle du langage là-dedans est absolument central, il me semble. Mais pas que le vocabulaire, encore une fois, je pense.
Je crois qu'il y a une dimension nouvelle qui apparaît actuellement, c'est le rejet de l'Europe et de l'euro. Il suffisait d'écouter Marie Le Pen hier soir à une émission de télévision. Et ce qui explique sans doute l'évolution, en particulier dans le milieu rural, aussi puisque les agriculteurs se considèrent souvent comme les premières victimes des mesures européennes, et ont aussi le sentiment que les hommes politiques ont un poids de plus en plus faible vis-à-vis des lobbies et des multinationales dans ces problèmes européens, avec une Europe sociale qui est bien loin d'être une réalité aujourd'hui.
Alors, moi, j'avais envie de vous lire un petit texte sur lequel je suis tombée ce matin. On se posait la question depuis deux jours, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors, je ne vais pas faire ma pub, enfin, pas la mienne, mais la pub. Demain, vous êtes au courant, il y a une grande marche contre l'austérité, la marche du 12 avril. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir sur Internet. Vous tapez marche du 12 avril, vous allez tomber sur le site. Et alors, ce matin, je suis tombée sur un texte que vous pouvez aussi trouver sur Internet de Christian Salmon. Christian Salmon, vous savez sans doute qui c'est celui qui a écrit les bouquins à succès sur le storytelling. Et je voudrais vous lire la fin de son texte. Il explique en fait dans son texte pourquoi il va participer à la marche du 12 avril, pourquoi il a signé l'appel. Je me suis dit que ça répondait à certaines des questions qu'on s'est posées hier, en particulier sur le langage. Ça réglait aussi un petit peu le problème. Je crois qu'il faudrait qu'on arrête, alors c'est moi qui dis ça alors que ça fait quelques années que je fais ça, il faudrait qu'on arrête d'essayer de décortiquer la novlangue néolibérale et puis en sortir et puis se dire que voilà, faut proposer autre chose. Et il le dit d'une très jolie façon, je crois. Donc je vous le lis rapidement. Ils ont cru, alors le « ils », c'est les hommes politiques depuis 2002. Ils ont cru pouvoir retrouver une hégémonie culturelle en empruntant à la droite et à l'extrême droite son lexique et son imaginaire, sous le prétexte de ne pas lui laisser le monopole de la nation. Et surtout, ils se sont persuadés, et ils nous ont persuadés, que pour gouverner aujourd'hui, il suffit de contrôler la perception des gouvernés. Ils se sont persuadés, et ils nous ont persuadés, qu'il n'y avait pas d'alternative à leur morne gouvernance, qu'il fallait abandonner nos espoirs, nos désirs, nos révoltes à leurs calculs de comptables, à leurs ajustements de technocrates, à leur vision myope de bureaucrates. Ils ont pris pour du courage ce qui n'était qu'un lâche abandon à l'ère du temps. Le 12 avril, il ne s'agit pas d'une manifestation de plus. Il ne s'agit pas de protester seulement, mais de se mettre en mouvement. C'est aussi simple qu'une envie soudaine de se secouer, aussi simple qu'une chanson de Lou Reed, « Take a walk on the wild side ». Traduisez comme vous le voulez, prendre la tangente, suivre la mauvaise pente, surtout sans sauvager. Contre l'assignation à résidence des politiques sécuritaires, il faut sortir de chez soi. Contre l'occupation de l'espace public et médiatique par les religieux et les extrémistes, il faut aller dans les rues. Contre l'injonction à la raison néolibérale, il faut se mettre en mouvement, chercher d'autres chemins. Contre la préférence médiatique pour le FN, il faut changer de fréquence, prendre la tangente. C'est pourquoi je me joindrai à la marche du 12 avril, devant l'immobilisme du pouvoir, mais aussi pour conjurer notre propre immobilisme, il faut se mettre en mouvement. Take a walk on the wild side. J'ai trouvé ça très beau et je trouvais que ça renvoyait à beaucoup des interrogations qu'on a exprimées pendant deux jours.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je pense que ça fera une très bonne conclusion à ce débat. Il n'y en a pas d'autres. Donc, quelques annonces pour terminer. Quitte au risque de se répéter un peu, mais voilà, comme ça que l'information passe aussi. Donc, je vous rappelle que ce soir, à 21h, au TAP Castille, vous avez une projection de Spectre, qui est un film de... J'essaye, Sven. Auguste Mignon, qui va nous déporter vers l'Afrique et nous rappeler aussi, et c'est peut-être pas si éloigné du débat que l'on vient d'avoir, que les questions qui se gèrent aujourd'hui dans les rapports sociaux sont aussi des questions qui nous renvoient à notre histoire, aux relations qu'on a avec le continent africain. C'est d'actualité ces jours-ci pour d'autres raisons, mais là on voit aussi tout l'impact, enfin toute l'importance de comprendre ce qui se joue dans les rapports de pouvoir dans les pays africains eux-mêmes et en même temps d'analyser la relation que nous avons à cette histoire et l'implication qu'a été celle des pays d'Europe par rapport à cette histoire. Le film dure 104 minutes, il y a le tarif unique d'entrée au Castille de 5 euros et la discussion après le film se fera avec Claude Kemar qui est responsable national du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Par ailleurs, je voulais également vous signaler que nous avons mis à votre disposition depuis deux jours une boîte pour ceux qui n'ont pas encore donné, qui pourraient, ceux qui ont les moyens en tout cas de le faire. Donc on vous invite à laisser votre petit obol parce que les ressources ne sont pas, comment disait Patrick, constante ni consistante. Donc voilà, donc cette association et ce festival reste un festival certes universitaire mais militant et donc il est traité comme tel et donc on a besoin de votre soutien. On a aussi proposé depuis hier, donc je le redis pour ceux qui n'auraient pas entendu ce message, nous souhaitons relancer une participation assez large à la participation, à la préparation de cette manifestation et à son animation. Ça a été le cas à un moment donné. Ça a été le cas sous d'autres formes avec les étudiants. Par exemple, cette année, les étudiants ont préparé la promenade sociologique qui a très bien marché et qui marquera vraiment l'histoire de ce festival durablement. Mais on souhaiterait que ces collaborateurs... On a une collaboration avec Ben qui maintenant fait partie des meubles et de l'association, qui est presque aussi sociologue que nous sur toute la partie cinéma. Mais on aimerait que ce type de collaboration se démultiplie. Donc au-delà de la programmation elle-même, à laquelle tout le monde est invité à contribuer, on a plusieurs pistes. On a épuisé notre liste de thèmes qu'on voulait traiter. Donc là, on a plein de nouvelles idées dans lesquelles il va falloir arbitrer. Donc si on le faisait avec beaucoup de gens, ça serait déjà pas mal. Et puis, sur la déclinaison du festival, sur la manière de faire des débats, d'associer une assoce de quartier, de faire de la danse, des lectures, ou que sais-je encore, on a des invités, c'est d'ailleurs ce qui coûte souvent, mais c'est très bien, c'est indispensable, mais c'est ce qui nous enrichit notre pensée, mais en même temps, il y a plein de compétences au niveau local qu'on sous-utilise. Donc, si vous avez fait un truc, si vous intéressez à ce qu'on fait, mais qu'aussi vous savez faire d'autres choses, ça nous intéresse pour imaginer à la fois une densification du programme et une participation beaucoup plus large. Et ce, d'autant plus que parallèlement aux activités de notre petite association, va se mettre en place, on espère avec d'autres forces là aussi, un projet d'institut d'études populaires, mot ambitieux, mais qui correspond au projet lancé par l'association Champs Libres pour les sciences sociales, qui a rédigé, qui a publié le manifeste La connaissance libère, qui est à votre disposition sur la table. L'idée donc de mettre en place des formations syndicales, plus largement d'éducation populaire, des initiatives d'éducation populaire qui fassent travailler gratuitement le milieu universitaire, mais en lien avec le milieu organisé et pouvant s'adresser à un public plus large. Donc on va essayer de mettre ça sur pied à Poitiers. Bon, ça pourrait trouver sa place dans le festival, ça pourrait s'organiser en dehors du festival, ça sera sans doute une autre association, mais très très liée. Donc là aussi, il y a besoin de bras. Donc on va rediscuter en fait des deux choses et essayer de mettre tout ça en place. Donc si vous laissez vos coordonnées, vous entendrez parler de tout cela et vous pourrez y participer en fonction du temps que vous avez à y mettre, c'est variable, et en fonction de ce que vous savez faire ou de ce que vous avez envie de faire, là aussi, ça peut être tout à fait variable. Merci à tous et merci à l'espace Mendès France pour son accueil pendant ces deux jours.